L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui nous préoccupe toutes et tous, surtout en ce moment, la paix. Il y a quelques monuments à la paix dans le Finistère, beaucoup moins, il est vrai, que des monuments aux morts qui commémorent les soldats victimes des guerres, première, deuxième, d'autres guerres encore. Est-il utile de rappeler que la guerre n'apporte rien de bon à l'humanité, que la grande majorité aspire à vivre en paix ? Et pourtant, la paix semble si fragile parfois. Elle mérite bien qu'on milite pour elle, et c'est le cas de notre invité, Noël Péoc, du Mouvement de la Paix. Bonjour Noël.
Bonjour.
Déjà, présentez-nous ce Mouvement de la Paix, qui n'est pas forcément très connu. Quelle est son histoire ?
D'accord. Alors d'abord, je vais me présenter. Donc, Noël Péoc, je suis adhérente du Mouvement de la Paix depuis une quinzaine d'années environ. Je suis dans le comité du Sud-Cornouailles, qui rayonne sur l'ensemble du Finistère. Voilà, il existe un autre comité à Morlaix également. Voilà. Donc, pour ce qui concerne la création du Mouvement de la Paix, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir préciser quel est ce mouvement et quelle a été sa naissance.
Parce que c'est pas tout jeune.
Voilà. Et jeudi dernier, j'étais à une manifestation à Carré au titre du Mouvement de la Paix, puisque nous avions été invités par la CGT. Et j'ai distribué quelques tracts et je me suis aperçue que beaucoup de gens ne savent même pas que le mouvement de la paix existe. Or, ce mouvement de la paix s'est construit tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, ça a été le conflit le plus meurtrier de l'histoire, avec plus de 60 millions de morts, dont, il faut le préciser aussi, 26 millions de Russes, enfin je devrais dire soviétiques, puisqu'à l'époque il s'agissait de l'URSS. Alors l'horreur de cette guerre a atteint son comble le 6 août 1945 avec le largage par les Américains de la bombe atomique sur Hiroshima et 3 jours plus tard sur Nagasaki.
Là, on sait combien de morts d'ailleurs.
Alors sur
au Japon.
Voilà, sur Hiroshima, sur le coup, hein, c'est-à-dire dans les secondes qui ont suivi, ça a représenté 80 000 morts sur Hiroshima. Et ensuite, avec sur les semaines et les mois à venir, on a compté environ 250 000 morts. Voilà,
ouais,
pour Hiroshima.
À cause des radiations.
Les radiations, les brûlures, voilà, les décès successifs qui se sont produits après le largage de la bombe, quoi. Et pour ce qui concerne Nagasaki, sur le coup, ça a été 60 000 morts et environ 140 000 ensuite aussi dans les semaines et les mois qui ont suivi. Mais ça, c'est des chiffres approximatifs. Il est probable qu'il y en ait même eu beaucoup plus. Voilà.
Et c'est ça qui a déclenché le mouvement de la paix, plutôt.
Alors, la guerre dans son ensemble, là, oui. 19, puisque je disais 60 millions de morts quand même, ça a été la guerre la plus meurtrière. Donc c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait que les résistants de l'époque se sont réunis et se sont dit plus jamais ça. Évidemment. Donc, ça a mis quelque temps, évidemment, avant de se créer véritablement. Mais des réunions ont eu lieu, beaucoup de réunions. Et le 22 février 1948, une soixantaine de personnalités issues de la résistance ont fondé l'association qui s'appelait à l'époque les combattants de la liberté. Ça deviendra ensuite les combattants de la liberté et de la paix. Et en 1951, ce mouvement adoptera le nom que l'on connaît aujourd'hui, le mouvement de la paix.
Et donc voilà. C'est français au départ alors ?
Ah, c'est le mouvement de la paix français, bien sûr. Il existe d'autres mouvements pacifistes à travers le monde, bien entendu. Mais le mouvement de la paix, là, c'est le mouvement de la paix français. Qui est donc, alors, je vais vous donner quelques noms. Il y a eu beaucoup de personnalités qui se sont engagées dans ce mouvement tout de suite. Mais je vais vous donner quand même quelques noms qui vont peut-être parler à ceux qui ont connu cette période ou qui ont déjà su par des lectures, qui connaissent au moins certains de ces noms. Alors je vais en donner quelques-uns. Il y avait Laurent Casanova, Pierre Cotte, Pierre Villon, Georges Braque, Pablo Picasso, Aragon, Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Maurice Druon, Yves Montand, Simone Signoret, Michel Piccoli, Claude Pieplu, Bernard Blier, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Lucie et Raymond Aubrac, Juliette Gréco et tant d'autres encore que je ne vais pas citer parce qu'ils sont trop nombreux.
Donc beaucoup d'artistes quand même.
Artistes, écrivains, voilà. Alors Pablo Picasso a offert d'ailleurs le dessin de la colombe, qui deviendra le symbole du mouvement de la paix français. Voilà.
Et la journée nationale, internationale même de la paix, est-ce que c'est le mouvement de la paix qui l'a mis en place ou pas? Ou est-ce que c'est venu après?
Non, alors la journée internationale, elle a été décrétée par les Nations Unies en 1980.
Alors c'est le 21 septembre, ça a toujours été le 21 septembre.
C'est le 21 septembre et c'est une journée internationale donc qui est pratiquée partout dans le monde. Et le 21 septembre, les mouvements pacifistes du monde entier agissent pour faire connaître cette démarche pacifiste contre les guerres, mais pas seulement, parce que les mouvements pacifistes ne sont pas seulement préoccupés par seulement les guerres, mais surtout par le vivre ensemble. Parce que les guerres sont souvent le résultat d'un mal-être d'une population ou globalement de prédateurs éventuels de toutes sortes d'énergie dans le monde. Et voilà. Donc, et puis les problèmes d'empire, quoi, qui se dispute.
Voilà. Le mouvement de la paix, donc en France, qu'est-ce qu'il a fait depuis sa création, à part participer à ces mouvements internationaux pacifistes, sans tout détailler, mais en gros, c'était quoi le type d'action?
Alors, je peux préciser les victoires, en tout cas, les victoires des mobilisations pour la paix, qui ne concernent pas seulement le mouvement de la paix français, mais auquel le mouvement de la paix a participé. Il y a eu, par exemple, en 1925, les mouvements pacifistes, bien avant la création du mouvement de la paix. Il y a eu la Convention sur l'interdiction des armes biologiques en 1925, la non-utilisation de l'arme atomique pendant la guerre de Corée. C'était en 1950. La décolonisation également, avec le soutien des pacifistes, évidemment.
Ce n'est pas toujours fait pacifiquement, malheureusement, mais oui.
Non. Alors, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP. L'accord de désarmement des euromissiles en 1987. La fermeture du centre d'expérimentation des essais nucléaires du Pacifique. La convention sur l'interdiction des armes chimiques en 1993. Traité d'interdiction complète des essais nucléaires en 1996, signature du traité d'Ottawa en 1997, interdisant les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions.
Ah, d'accord.
Démantèlement des missiles Hadès et Pluton de la force nucléaire terrestre de la France, refus d'engagement de la France dans la guerre en Irak en 2003, retrait des soldats français de la guerre d'Afghanistan 2012, participation à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Et en 2013, la culture de la paix entre par la petite porte des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Ah oui, quelle petite porte ?
Alors, la réalisation non violente des conflits intègre les programmes.
Oui, ils sont formés en fait à ça, quoi.
Voilà.
Ouais. D'accord. Et on voit que le mouvement de la paix donc n'est pas tout seul dans le monde, bien sûr.
Non.
Et localement, alors à l'inverse, déjà vous, Noël Péoc, pourquoi vous êtes entré dans ce mouvement-là il y a 15 ans?
Alors, je reprendrai la formule d'Albert Camus. Le seul combat qui vaille d'être mené, c'est la paix. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la paix ne regroupe pas seulement, comme je disais tout à l'heure, une lutte contre les guerres, mais plus globalement un projet politique, je dirais, un projet politique sur lequel, moi, je me retrouve complètement. Parce que quand on définit les 8 domaines de la culture de paix définis par l'ONU, on s'aperçoit qu'on atteint absolument tous les domaines de l'activité humaine. Et pour bien vivre ensemble, il faudrait que tous ces domaines-là soient en harmonie les uns avec les autres.
Alors, il faut qu'on les détaille, du coup.
Oui, alors...
Vous reviendrez sur vos motivations personnelles après, mais c'est vrai qu'il faut nous les donner.
Alors,
c'est vraiment intéressant, parce que c'est vrai que, comme vous dites, c'est pas seulement lutter contre la guerre, être pacifiste, hein, c'est créer les conditions de la paix, en fait, c'est ça, quoi.
Absolument, enfin... absolument. Alors, zut, j'ai pas...
Il y en a un que vous aviez retenu déjà lors de la réunion du 22, de la marche du 22 à Carhaix, à laquelle vous avez participé. C'était la santé déjà, c'est ça?
Oui, alors en fait, moi, j'interviens dans les écoles, en tant que militante du mouvement de la paix, donc j'interviens dans les écoles, les collèges et les lycées, sur ces 8 thèmes de la... 8 domaines de la culture de paix définis par l'ONU. Alors, je les décline en différents points. Par exemple, il semble important que la population du monde entier ait accès à la santé, à l'éducation, à l'eau, qu'il n'y ait plus de famine dans le monde, qu'on lutte également contre la pauvreté, pour l'égalité aussi entre les hommes et les femmes. Égalité aussi entre les hommes plus généralement, c'est-à-dire une répartition des richesses qui conviennent, qui permettent aux gens de vivre décemment. Voilà, c'est tout. Et aussi, évidemment, quelque chose qui me paraît aussi important, c'est le respect des autres. Je voudrais parler un peu plus de l'immigration, par exemple, où effectivement, oui. Là, il y a un gros souci par rapport à l'accueil de ces pauvres gens qui quittent leur pays, non pas par plaisir, mais parce qu'ils sont contraints à cause de guerre ou de faim ou d'autres maux dont ils souffrent.
On a vu que pour les Ukrainiens, c'était facile d'accueillir. Enfin, c'était plus facile d'accueillir les Ukrainiens, par exemple, que les guerres précédentes, enfin, les migrants des guerres précédentes, en effet, n'avaient pas été si bien accueillis. Hein. Et ne sont toujours pas, d'ailleurs.
Non. Alors là, il y a un gros souci, évidemment. Et on peut pas... Enfin, au mouvement de la paix, on n'est certainement pas d'accord avec cette façon de faire. On estime qu'il faut accueillir les migrants, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur motivation, que ce soit économique ou de guerre, des raisons de guerre. Parce que on imagine... Moi, je dis ça souvent quand je passe dans les écoles. Je dis, imaginez que des bombes tombent sur vous. Qu'est-ce que vous faites ?
C'est ça, sur votre école.
Sur votre école, sur votre maison, sur votre département. Vous ne restez pas sous les bombes, vous partez. Et alors, je citais l'exemple de mes parents qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale et qui habitaient Brest, donc, et qui ont dû quitter aussi Brest, qui a été rasé par les bombardements, et qui se sont retrouvés donc en Loir-et-Cher, parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus rien. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Et je dis, ben voilà, donc on s'en va, on quitte. Alors, on quitte, on peut peut-être rester, être déplacé dans son propre pays.
C'est souvent ce qui se passe, d'ailleurs. Hein.
Mais on peut aussi être déplacé vers des pays frontaliers. Ou plus loin même parfois. Et donc on peut, il faut garder de l'empathie envers l'humain en fait. Ne pas le regarder comme un ennemi, ne pas regarder les gens comme des ennemis, mais comme des frères.
Ouais, se mettre à leur place, comme nous-mêmes,
que la fraternité soit le sentiment le plus fort, et pour accueillir donc ces gens qui sont en grande souffrance et qui arrivent complètement perdus, puisqu'ils souvent ils connaissent pas la langue, ils connaissent pas la culture, ils connaissent pas les modes de vie, la façon dont ils peuvent entrer dans cet univers complètement étranger à leur vie antérieure. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'être aidés, surtout aidés. Et voilà, donc le mouvement de la paix, en tout cas, œuvre dans ce sens, évidemment.
Oui, c'est ça. Alors, les actions concrètes, par exemple, en Finistère, donc, qu'est-ce que ça peut être, une action du mouvement de la paix en Finistère ? Vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, vous avez participé à la marche de Carré.
Oui.
Vous avez informé. Donc, pourquoi c'était la santé qui avait été choisie, en l'occurrence ?
Alors, justement, parce qu'on estime que... les sources de conflit quels qu'ils soient, viennent du fait que les gens n'ont pas accès aux choses les plus élémentaires qui leur permettraient de vivre décemment. Donc, la santé en fait partie. Et de même que l'éducation. Et bien d'autres choses encore. Les services publics d'une manière générale. Voilà. Si les gens n'ont pas accès aux services publics d'une manière correcte, ça entraîne des conflits, ça entraîne des violences, et ça peut même aller jusqu'à des guerres. Quoi. Voilà.
Oui, bien sûr.
Donc c'est aussi ça la préoccupation du mouvement de la paix. C'est pourquoi on est en général toujours présent dans toutes les manifestations pour la défense des droits humains.
Et donc, d'autres actions à part les manifestations
Alors, cette année, si je fais une petite liste, là, il n'y aura pas tout dedans,
allez-y.
Quelques-unes quand même. Pour cette année 2022, par exemple, le samedi 8 janvier 2022, on a fait une conférence sur le désarmement nucléaire à Brest. C'était dans le cadre de la venue des 54 ministres de la Défense européens qui avaient été réunis au Capucin à Brest pour définir une défense européenne. Et donc nous, évidemment, ça nous a heurtés parce que nous estimons que le désarmement, c'est la priorité dans le monde quand on voit ce qui s'y passe. Donc on a fait cette conférence sur le désarmement nucléaire à Brest avec la participation d'un des responsables de ICAN. Alors ICAN, c'est l'association internationale pour l'abolition des armes nucléaires et qui a obtenu en 2017 le 17 octobre 2017 a obtenu le prix Nobel de la paix. Ça nous a servi d'ailleurs de tremplin à nous pour créer en 2018 avec l'association UEP, Université Européenne de la Paix de Brest, qui est une association pacifiste de Brest, on a créé le collectif pour l'interdiction des armes nucléaires. Ce collectif pour l'interdiction des armes nucléaires comporte une quinzaine d'associations, je dirais, associations, partis politiques, syndicats. Et nous nous réunissions régulièrement, au moins une fois par mois, pour faire le point et voir ce que l'on peut faire par rapport à ce traité d'interdiction des armes nucléaires qui est entré en vigueur le 22 janvier 2021. Donc c'est tout à fait récent.
Qui n'a pas l'air toujours respecté, malheureusement.
Qui n'est pas respecté. Alors, il faut savoir qu'en 2017, il y avait 122 pays sur les 193 de l'ONU qui ont voté ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Il est entré en vigueur. Il fallait 50 pays, en fait. Il fallait que 50 pays ratifient ce traité. Ce qui a été fait, donc, dans le courant du mois de janvier. Et il est donc entré en vigueur depuis le 22 janvier 2021. Donc, chaque année, maintenant, on commémore cet événement et on fait aussi des manifestations à ce moment-là pour aussi populariser ce traité et demander à ce que la France le ratifie.
Ah, il n'est pas ratifié par la France.
Il n'est pas ratifié par la France, il n'est pas ratifié par les pays qui possèdent l'arme nucléaire.
C'est ça,
voilà. Donc, il y a 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire. Il y a la France, l'Angleterre. Alors, les pays les plus dotés, c'est quand même la Russie. Et les États-Unis, puis après il y a la France, l'Angleterre, la Chine, la Corée du Nord, Israël, le Pakistan et l'Inde.
Voilà, ouais. Et il y a d'autres candidats qui frappent à la porte, enfin qui disent qu'ils pourraient très rapidement se doter de l'arme nucléaire.
Voilà,
le Japon, par exemple.
Pourtant, il n'y a pas de raison. Ouais. Mais ceux qui possèdent l'arme nucléaire leur disent non, vous n'avez pas le droit.
Oui, voilà, donc, c'est ça, bien sûr. Ouais.
Donc c'est un peu... Bon, c'est pas normal, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ceci dit, c'est l'arme la plus destructrice au monde. C'est celle qui pourrait conduire la destruction de l'humanité, la destruction de toute vie sur Terre, s'il y avait une guerre nucléaire. Et en ce moment, effectivement, on est dans une situation assez dangereuse du fait de cette guerre en Ukraine, avec des menaces qui viennent à la fois de l'OTAN et de la Russie. Avec la possibilité de l'usage de l'arme nucléaire.
Mais il y avait un principe de dissuasion, on se disait bah, c'est tellement puissant comme arme que finalement ça oblige à un statu quo entre les ennemis. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce raisonnement ?
Nous on dit non. On dit non, la dissuasion c'est complètement absurde. D'abord parce que l'arme nucléaire en elle-même est une arme extrêmement dangereuse. Elle n'est pas. Il y a eu énormément d'accidents nucléaires, faut le savoir. Hein. Mais ça, évidemment, c'est l'omerta totale dès qu'il s'agit de la défense. Mais il y a eu énormément d'accidents nucléaires. Il y a eu à un moment donné aussi dans les années 80 un général soviétique à l'époque qui a sauvé l'humanité. Parce qu'à un moment donné, c'était au temps de la guerre froide, donc à un moment donné, ils ont vu dans l'espace des lumières particulières qui semblaient être des attaques nucléaires.
De missiles, quoi, de américains,
oui,
en
voilà,
l'occurrence.
Américains, ouais. Ben oui, bien sûr, ouais. Américains. Et donc, ce général a hésité, il dit, c'est bizarre, il y en a 3, 4... C'est étonnant et il n'a pas fait ce qu'il fallait pour que renvoyer
des il n'a pas répliqué
il n'a pas répliqué,
il s'est méfié,
il n'a pas fait ce qu'il fallait, et heureusement, parce qu'en fait c'était des effets dans l'espace de lumière particulière,
des effets d'optique, quoi.
Voilà, oui. Et donc là il a sauvé l'humanité, parce que s'il avait répliqué à cette pseudo-attaque, les Américains répondaient, et puis c'était le désastre, ouais, sur la Terre. Donc il y a eu de nombreux accidents comme ça nucléaires, d'une part. D'autre part, on se dit qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine.
C'est sûr.
Bon, celle-là, ouais, entre autres, ouais, aurait pu... Ouais. On n'est pas à l'abri non plus d'un acte terroriste. Sachant qu'ici, en Bretagne, on est en première loge.
Mais oui, il y a quelque chose qui s'appelle l'île Longue.
Il y a l'île Longue et il y a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et d'ailleurs, en ce moment, il y en a deux qui sont en activité permanente dans les océans du fait de la guerre en Ukraine. Jusqu'alors, c'était un. Maintenant, ils sont à deux.
Est-ce que le mouvement de la paix, d'ailleurs, est plus actif dans le Finistère pour cette raison ou pas spécialement
Alors, le mouvement de la paix a 150 comités en France, hein, répartis sur tout le territoire français. Et donc, par exemple, si je reprends la Journée internationale de la paix, le 21 septembre, là, il y a eu des actions qui ont été menées partout sur le territoire. Partout en France, il y a une lutte contre l'arme nucléaire et une démarche particulière pour demander à la France qu'elle ratifie le traité. D'ailleurs, nous avons une pétition que nous présentons à chaque fois que nous participons à des manifestations pour que les gens appuient notre demande pour le traité, pour que la France signe ce traité d'interdiction des armes nucléaires. Alors, nous, dans le département, on a une démarche au niveau du CIAN, donc du collectif pour l'interdiction des armes nucléaires. On a une démarche auprès des municipalités. On va voir les maires pour leur demander de voter un vœu pour demander l'abolition de l'arme nucléaire en France. Et par exemple, il y a Denise qui est présente là aujourd'hui, qui est conseillère municipale de Saint-Rivoil, qui a fait la démarche auprès de sa municipalité, et la municipalité de Saint-Rivoil a émis un vœu pour l'interdiction des armes nucléaires en direction donc du gouvernement français. Alors il y a d'autres villes en Bretagne, en Finistère pour ce qui nous concerne, puisqu'il s'agit du CIAN 29. C'est Morlaix qui a également fait un vœu. Dans ce sens, Carré, Berrien
et Motreffe.
Et on continue donc cette action. Donc on va contacter d'autres municipalités. On va aller sur Brière, sur Quimper. On continue cette action là quotidienne avec nos militants.
Vous êtes combien militants dans le Finistère, militants pour la paix
Alors pour la paix dans le collectif de Sud Cornouailles en ce moment doit être une cinquantaine.
Ah oui, quand même.
Oui. Une cinquantaine. Et puis après, il y a dans les autres comités, je peux pas vous dire. Non, je suis pas les compter, je sais pas. Mais voilà. Et puis on rayonne donc sur l'ensemble du département.
Donc les actions, pour en venir aux actions que vous faites, parce que c'est vrai que là vous en avez déjà cité beaucoup. Oui. Est-ce qu'il en reste d'autres éventuellement à signaler?
Alors on participe systématiquement aux manifestations aussi, hein, pour l'hôpital par exemple, chaque fois qu'il y a des problèmes sur la santé. Hier on était aussi pour le pouvoir d'achat et les retraites, parce que là c'est pareil, la pauvreté entraîne des situations dramatiques. On sait qu'en France il y a 8 millions de pauvres par exemple, et l'un des objectifs des domaine de la culture de paix, c'est aussi de lutter contre la pauvreté. Donc 8 millions de pauvres en France, près d'un million d'enfants qui dorment dans la rue ou dans les voitures, dans un pays qui est quand même riche, c'est pas normal. Et donc nous, on participe aussi à toutes ces manifestations-là. Alors ensuite, à chaque fois, aussi le 1er mai, le 8 mai, évidemment, on est présent, hein, on agit en conséquence avec nos tracts, nos pétitions, etc. On distribue des tracts aussi, depuis le Covid, on n'a pas pu le faire, mais ce qu'on faisait systématiquement, c'était essayer d'informer la jeunesse aussi en allant distribuer des tracts aux Vieilles Charrues, au Bout du Monde, dans les différents festivals où on était susceptible de rencontrer des jeunes avec qui discuter, quoi, pour les sensibiliser à tout ces questions.
Et justement, est-ce que les questions ont un peu évolué, j'imagine, ces dernières années est-ce que, par exemple, la question du climat a surgi dans vos débats, dans vos actions puisque c'est pareil, hein, le climat peut entraîner des guerres ou des migrations ou des...
Voilà, tout à fait. Donc, évidemment, la préservation de la planète fait partie des domaines aussi de la culture de paix. Et le mouvement de la paix a édité un livre que je conseille à tout le monde et que l'on peut trouver sur son site, puisqu'il y a un site très important du mouvement de la paix, ce qu'on trouve sur internet, hein, il suffit de taper mouvement de la paix, on tombe sur son site, et il y a un petit livret qui a été fait qui s'appelle Paix et Climat, et qui aborde donc le problème de la paix à travers la problématique du climat. Et en particulier, il y a un des chapitres moi que je trouve très très développé, c'est la pollution qui impactant le changement climatique et provenant des armées. On en parle.
On a calculé ça. Oui, quelqu'un a calculé ça.
Absolument. Il y a des scientifiques qui sont souvent d'ailleurs au mouvement de la paix, qui ont fait un état des lieux de toutes les conséquences quoi, de l'emploi des armes, que ce soit nucléaire ou autre, qui ont donc pollué considérablement la Terre. Quoi,
ouais, la planète.
La planète, oui. Hein, bien sûr. Voilà. Alors, je pourrais citer Romain Desbois qui dit « Les guerres tuent pendant quelques jours et quelques années et polluent pendant des siècles. »
Oui, voilà, c'est un exemple.
Et la militarisation du monde est la cause principale de la détérioration de nos environnements sur Terre, en mer et dans l'espace. Notre planète est de plus en plus abîmée par ceux-là même qui s'en font les défenseurs autoproclamés, les forces armées. Ça, c'est Ben Kramer, journaliste polémologue, qui le dit. Donc là, c'est un des chapitres livret ouais. Paix et climat, parce que le paix et climat aborde aussi toutes les questions, moyens financiers, ressources naturelles, énergie, etc. Donc moi je conseille aux gens, il ne coûte pas bien cher, c'est 10 euros je crois, le petit bouquin et voilà, on peut le trouver sur le Mouvement de la Paix.
Oui c'est ça, donc vous avez un site internet hein, Mouvement de la Paix,
tout c'est
ça.
Tout à fait, c'est le Mouvement National. Hein,
oui c'est voilà, ça, tout voilà. À fait, il n'y a pas de...
Et il y a aussi donc la revue mensuelle qui s'appelle Planète Paix, à laquelle on peut s'abonner et qui est vraiment très intéressante puisqu'elle aborde les sujets de société actuelle, enfin du moment, mais aussi des articles de fond sur toutes les problématiques relatives à l'humanité.
Et on peut rejoindre ce mouvement de la paix. Merci beaucoup Noël Péog. Ben, vous reviendrez parce qu'en fait vous n'avez le temps de rien dire.
Hein,
je pense,
voilà. J'ai pas fini.
Mais c'est, c'est la fin de cette émission.
Voilà, dommage parce que j'avais plein d'autres choses à dire.
Et ben, vous reviendrez. À
oui,
bientôt.
D'accord. Au revoir. Au revoir. Ben, je vous remercie en tout cas de votre invitation.
Dans un instant, c'est la deuxième partie de l'EM avec nos lectures du vendredi.